2.1,
o programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Olá a todos, il est 14h03 et vous êtes sur Radio Alpha pour Tempestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Laura et Liliana sont de retour, comment ça va?
Ça va, et vous?
Bah, ça va très bien aussi, merci. Au programme aujourd'hui, culture, sport, musique et coiffure, puisque nous recevons Diane Duarte, une coiffeuse spécialisée dans les balayages, les soins pour femmes. Elle est passionnée par son travail et cofondatrice de Blondie. Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
On est super contente de te recevoir. Je pense que c'est une thématique aussi qui change de ce qu'on a l'habitude de voir ici. Et je pense que ça va faire du bien, ça va peut-être inspirer les gens.
En tout cas, je suis super contente d'être là. Ben c'est cool.
On est super contente que tu sois là. Merci beaucoup. Et en attendant, on en parle au moment de l'interview. Ce sera à partir de 14h45. Et en attendant, je vous laisse avec le dernier single des Kalema. Je pense que c'est vraiment un duo que tout le monde adore. Ils sont de retour depuis hier avec Chuva de Amor.
Só sei que nesse dia eu vou estar no primeiro lugar da fila. E quando o sol se abrir pra nós, vai chover dando amor. E a terra vai sentir, todos vão sentir. Só sei que vai chover. Deus abençoou o que eu sempre pedi. Vai vou pedir som. Só sei que vai chover. Ai, 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 ai.
Toda vez que olhava pra o céu, além da chuva eu nunca imaginei que de lá fosse chegar o que eu tanto pedi. Não faltar comida na mesa e um amor pra vida inteira. Quando o sol se abrir pra nós, vai chover tanto amor. E a terra vai sentir, todos vão sentir. Só sei que vai chover. Deus abençoou o que eu sempre pedi. Quando me diz som, só sei que vai chover. Ai, 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 ai.
C'est le moment de l'événement de la semaine sur Tempestade 2.1 et j'ai deux événements à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, foire, je ne sais pas si on dit foire ou salon, vous me direz. d'art qui a lieu en ce moment, donc le Solidart. C'est au carreau du Temple, donc à Paris. Et je pense que je vais laisser Laura et Liliana en parler parce que déjà, elles y sont allées et c'est elles nos spécialistes de l'art.
Alors, moi personnellement, j'y étais pas au sein même. Moi, j'y suis allée pour le plaisir au vernissage, voir notamment Laura qui... qui avait avec son asso un stand. Il y avait aussi David Ferreira, Laura, elle en a parlé la semaine dernière dans Rick. Mais je pense que, en parlant de Laura, peut-être que tu peux en parler de moi.
du salon ou de David? Bon, les deux.
Les deux.
Oui, du coup, j'ai vu David, que j'avais pas prévenu que je faisais une rubrique sur lui d'ailleurs. Du coup, je lui ai dit deux fois là-bas. Il était très content. Et il avait un énorme stand, en fait, enfin un énorme carré avec plein d'œuvres, même des meubles. Enfin, c'était hyper coloré et tout, hyper bien. Et Solidart, je ne sais pas si vous connaissez.
Moi, non. Je connaissais
non.
pas avant.
Non,
moi
non
plus.
Ouais, non, moi, je ne connaissais pas. En fait, c'est du coup, c'est une foire.
Ouais, c'est une foire, en fait, solidaire dans laquelle les œuvres sont vendues au profit d'une asso qui est du
Le Secours Populaire.
Et en fait, les fonds sont reversés dans... En fait, c'est pour permettre à des enfants d'aller en vacances. Donc, chaque œuvre permet d'aider des enfants à partir en vacances. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez envie d'aider l'asso pour ce projet, n'hésitez pas à aller y faire un tour, puisque c'est jusqu'à demain, dimanche.
Et c'est entrée libre.
Entrée libre, oui, c'est gratuit. Et puis, franchement, ça vaut... Moi, j'ai fait un peu le tour. J'y étais deux jours, donc j'ai eu un peu le temps de me balader. Et franchement, il y a plein de belles choses, il y a plein de choses différentes. Et surtout, au niveau des prix, ça vaut vraiment la peine, quoi.
Il y a plutôt du street art, non?
Non, il y a les deux. Il y a même de la photo, il y a des trucs un peu plus classiques et tout. Il y a un peu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de street art.
D'ailleurs, le parrain, c'est Lorem. Moi, c'est un artiste que j'adore, qui n'est pas à portugais, malheureusement, ni lusophone, mais... On n'a pas tous que des qualités, mais en tout cas, j'adore ce qu'il fait. C'est très en lien avec le recyclage, utiliser des œuvres, des matériaux qu'il trouve dans la rue pour les rendre en street art et les donner aux gens. Mm-hmm. Donc voilà, j'adore. Le deuxième événement dont je voulais vous parler, rien à voir, mais vous le savez, tous les étés, Cap Magellan a sa campagne de sécurité routière. Mais est-ce que vous saviez que depuis 2024, en partenariat avec l'Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, nous avons aussi une campagne de sécurité routière à Noël et à Pâques? Et oui, parce que les Portugais retournent au Portugal l'été, mais aussi à Noël et à Pâques. Toi, tu retournes quand, globalement?
Normalement, je pars en été, enfin... Quand j'étais plus jeune, j'allais tous les août avec mes parents. Et là, j'essaye de partir des petits week-ends, mais pas forcément. Mais on va dire plus l'été.
Plus l'été, ok. Et c'était d'où au Portugal?
Aveiro.
Oh, ça
Aveiro.
C'est...
Alors, c'est pas vraiment Aveiro, on va dire. C'est oui, un petit patelin un peu plus bas, mais oui, on va dire...
Trop bien. Eh bien. Écoute, pour cette campagne, en tout cas, on est à Pâques. Donc, d'ailleurs, bon week-end de Pâques à tous. Mais la campagne Secure Pâques s'adresse aux Portugais et descendants de Portugais en France. L'objectif est de rappeler l'importance d'adopter des comportements responsables au volant. Vous avez dû voir des stories sur les réseaux sociaux de Cap Magellan avec un rappel des bons gestes. Et au-delà de ça, des actions de terrain sont organisées. Par exemple, ce matin, Cap Magellan était présent à la frontière de Vila Formoso, comme l'été, donc... La boucle est bouclée. Et globalement, Cap Magellan invite l'ensemble des associations, des partenaires et des acteurs locaux à se joindre à cette initiative en diffusant les messages de prévention, intégrant des espaces de sensibilisation à la sécurité routière dans leurs événements, puisque la participation de tous est essentielle pour la sécurité de chacun durant cette période festive et surtout réduire le risque d'accident sur nos routes, puisque ce qui compte, c'est d'arriver et pas d'arriver vite. En tout cas, toutes les informations sont sur le site de capmagellan.com si c'est une campagne qui vous intéresse. Et pour ceux qui rentrent ce week-end, qui sont peut-être sur la route, je vous invite vraiment à faire attention. On fait des pauses toutes les deux heures de au moins 20 minutes. Et pas d'alcool, évidemment. Hein.
Évidemment.
En tout cas, on change de sujet d'ici 5 minutes. Liliana nous présentera Capital Creative. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le dernier single de la grande Bébé Rexha, Hysteria. C'est sorti hier.
Your angels with me. What just happened? Did such a reaction happen? What you waiting?
Vous êtes toujours sur Radio Alpha pour Tonton et tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Capital Creative avec Liliana. Alors, quelle art nous présentes-tu aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous poser une question. Alors, est-ce que vous avez déjà acheté des œuvres ou est-ce que vous avez une collection ? Est-ce que c'est votre truc ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Quand j'étais petite, j'avais une collection de timbres. Je ne sais pas si ça marche, mais...
On va dire que oui. Bah, oui, finalement... Tu te rappelles l'oral avec les timbres,
oui, justement,
qu'on a
ouais.
vu à Solidar. Bah, ça compte.
Super.
Et du coup, est-ce que vous êtes déjà rentrée dans une galerie d'art ?
Pas du tout.
Avec toi, non ? Je crois qu'avec toi, oui.
Avec moi, c'est possible. Mais moi, je rentre sinon... souvent dans les galeries d'art, donc je
rentre. Ah bah oui, tu m'étonnes.
Sinon, non.
Et du coup, j'ai sûrement un projet qui va vous intéresser, parce que ça combine les deux. Je vous emmène à la découverte d'une exposition qui pourrait bien changer votre regard sur le monde de l'art et peut-être même vous donner envie de commencer une collection. Alors son nom c'est Trésor en ligne, un titre qui annonce déjà une promesse, celle d'un art décloisonné. Et le projet, il est porté par Victoria Alves, elle est étudiante en deuxième année de marché de l'art et elle a voulu créer une exposition plus inclusive, heureuse et presque familière. Victoria, on aura d'ailleurs l'occasion de la revoir sur Themestadt Deutschpontum prochainement. Elle est aussi influenceuse en art et culture et parallèlement à ses études, elle a ce compte Insta qui s'appelle Sous les jupons de l'art. Et je vous recommande vivement de la suivre, son contenu est très intéressant.
Je confirme.
Et elle est aussi à Solidar, du coup.
J'irai oui. faire un petit
avec
tour.
Oui, oui.
Elle est partout, elle est partout.
Alors, donc... Pourquoi cette exposition, elle est différente ? Eh bien, je vous laisse écouter Victoria qui va vous expliquer.
Sort en liberté part d'un constat simple. Beaucoup de jeunes aiment l'art mais n'osent pas entrer dans une galerie, souvent à cause des prix ou parce qu'ils ne se sentent pas à leur place. J'ai donc organisé cette expo à la Cage à Saint-Ouen, juste à côté des Puces. Et donc elle se tiendra du 16 au 19 avril avec un vernissage le 16 avril dès 18h et des horaires d'ouverture de 11h à 19h les jours suivants. Cette dernière réunit 7 artistes émergents qui présentent des œuvres variées, comme des dessins, des céramiques, installations, miroirs gravés et œuvres textiles. Toutes les œuvres seront proposées à des prix de 18 à 100 euros. L'idée est de montrer qu'on peut commencer une collection jeune, sans expert en art. Le thème de l'exposition est l'identité, car lorsqu'un artiste vend une œuvre, c'est une partie de lui qui part chez quelqu'un. C'est aussi important que le collectionneur puisse une œuvre. C'est pour cela que j'ai sélectionné 7 artistes aux univers différents. Le but est que les jeunes osent entrer, se sentent à l'aise et que s'ils ont un coup de cœur, ils puissent repartir avec leur première œuvre.
Alors ici, dans son projet d'exposition, on ne vient pas seulement voir de l'art, on vient s'y reconnaître, échanger, ressentir et surtout se sentir légitime. Donc autre point fort, comme elle l'a dit, les prix proposés sont à partir de 20 euros jusqu'à 100 euros. C'est une manière très concrète de dire que collectionner de l'art n'est pas réservé à une élite et qu'acheter une œuvre peut être aussi naturel que s'offrir un vêtement ou un objet qui nous plaît. L'exposition se tiendra à la galerie Amarage à Saint-Ouen donc du 16 au 19 avril avec un vernissage le 16 au soir. Mais au-delà du lieu, c'est l'ambiance qui compte. On est loin du fameux White Cube, donc en gros c'est une galerie complètement blanche. Ces espaces très épurés, parfois intimidants. Ici, l'idée est de créer un vivant, accessible, où le public peut circuler librement, prendre le temps, discuter avec. C'est une expérience où l'art sort de son cadre traditionnel pour redevenir un espace de rencontre. Justement, parlons des artistes. Ils sont 7, tous émergents, avec des univers, mais un point commun, une approche profondément personnelle de la création. Il y a d'abord Emilia Pesti. Donc c'est une artiste franco-mexicaine, elle navigue entre peinture, design, photographie et céramique. Son travail est marqué par une couleur dominante, le bleu, qui devient une véritable signature émotionnelle. Ses œuvres puisent dans ses origines et son histoire personnelle, créant un dialogue entre identité et mémoire. Puis il y a Sarah, elle est autodidacte, elle s'inspire de la vie urbaine et de la banlieue. Son univers visuel mélange streetwear, silhouettes, en apesanteur et motifs floraux. Chez elle, le regard est central. Il crée une connexion directe, presque intime, avec le spectateur. Également, Léa Toutain, dont j'ai déjà parlé ici dans cette rubrique, elle est des Beaux-Arts de Paris, elle s'intéresse à notre rapport au temps. des figures absorbées dans leurs activités quotidiennes. Il y a quelque chose de très subtil dans son travail. C'est une distance entre observation et voyeurisme qui pousse à réfléchir sur nos propres habitudes. Ensuite, il y a Maria Mac. Son travail est profondément introspectif. Elle mélange peinture, couture, collage, objets récupérés. Et ses œuvres parlent d'errance, d'origine, de déracinement, de résilience, notamment à travers le lien entre la création artistique et la santé mentale. Maïté Cunningham, Marie Connery, elle explore la notion de réparation, elle travaille avec les matériaux usés, recyclés, qu'elle transforme grâce à la couture. Chaque geste devient une forme de soin, une manière de réparer ce qui est abîmé, matériellement, mais aussi symboliquement du coup. Ensuite, on a Louise, autodidacte également. Elle est passée par le dessin, le manga, le digital, avant de se peindre. Et finalement, on a Zora Torrios, issu de la photographie. Il explore aujourd'hui plusieurs médiums, la gravure, la sérigraphie et l'illustration. L'humanité, avec une approche sensible et lumineuse, il invite le spectateur à se reconnecter à ses et à l'instant présent. Pour accompagner ce projet, le parrain, c'est Opar. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui.
Oui.
Tu connais bien Laura.
Tu l'as déjà présenté, non, Laura?
Faudrait que je le fasse, oui.
Et bah, ce sera l'occasion de le rencontrer.
Ah, mais là, on va le voir et puis après, tu le présentes.
Trop bien.
Eh bien, c'est un artiste franco-portugais, du coup, et figure importante street art français. Il incarne parfaitement l'esprit de l'exposition et son parcours est intéressant puisqu'il est issu du graffiti, donc un art accessible, visible dans les espaces publics. Et il a toujours défendu ouverte à tous. Son engagement dans ce projet n'est donc pas un hasard. Il vient renforcer cette idée que l'art ne doit confiner ni réserver à quelques-uns. Au fond, Trésor en liberté, ce n'est pas seulement un message qui dit « Vous avez le droit d'aimer l'art, vous avez le droit d'entrer dans une galerie et vous avez le droit d'acheter une œuvre. » Même si vous êtes étudiant, même si vous n'y connaissez rien, même si vous savez que ce n'est pas pour vous, et c'est sans doute ça la vraie force du projet, donner confiance au public. D'ailleurs, si vous souhaitez, l'initiative Victoria a également ouvert une cagnotte qu'on postera sur Instagram, sur notre compte Temstad 2. Alors, si vous êtes curieux, sensible ou en quête d'une expérience différente, rendez-vous au 19 avril à la galerie Amarage à Saint-Ouen. Et qui sait, vous repartirez peut-être avec votre premier trésor.
Merci beaucoup, Liana.
En tout cas, ça donne envie d'y aller.
Eh ben, on ira ensemble, Jana.
Avec plaisir, ce sera une première fois.
Eh ben, pour moi aussi, tu vois, on pourra faire une première fois ensemble, au-delà de la radio, qui est aussi une de tes premières fois aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Liliana, et gros bisous à Victoria. Si elle nous écoute, on a hâte de la rencontrer. Et en tout cas, restez avec nous, puisque d'ici quelques instants, je vous présente un nouveau livre dans Ushkadenj de Julie. Et tout de suite, je vous propose d'écouter une nouvelle sortie hier, Peligu de Gamma WNTD et Siro.
Pedes pra ficar, mas amor não consigo. Dizes que me amas, mas amor eu te... Da maneira que andas, estás a brincar comigo. Brincar comigo. Pedes pra ficar, mas amor não consigo. Dizes que me amas, mas amor eu duvido. Da que andas, estás a brincar comigo. Brincar comigo. Ela diz amor, tem calma, ainda há muito pra falar. Mas para mim conversa já não traz solução. Já conheço as promessas que estás pronta a quebrar. Por isso brinca com a palavra, nunca com... Ela diz que por mim vai mudar. Promete que também vai tentar. Ter mais pra não arrumar confusão e me dá mais paz. Então vai por favor. Leva-me a dor. E que não há amor, é lá. Pedes pra ficar, mas amor não consigo. Dizes que me amas, mas amor eu duvido. Da maneira que andar comigo, brincar comigo. Pedes pra ficar, mas amor não consigo. Dizes que me amas, mas amor eu duvido. Da maneira que brincar comigo, brincar comigo.
Deixa-me dizer-te que não era amor. Que há mentiras que nos guardam do pior. Sabe pouco, mas a que preço vir um louco. Tudo disse e fazer não move o coração.
Então digo, vai por favor. Leva-me a dor. Eu sei que não há amor. É saudade. Para ficar.
cai, mas a mão não confio. Dizes que me amas, mas amor eu devido. Da maneira que andas, estás a brincar comigo, brincar do perigo. Pedes para ficar, mas amor não consigo. Dizes que me amas, mas amor eu devido. Da maneira que andas, estás a brincar comigo, brincar do perigo.
Deixa-me ir que já não dá. Tudo que é bom acaba e já não sobra nada. Mudar.
Para ficar, mas amor não consigo. Dizes que me amas, mas amor eu devido. Da maneira que andas, estás a brincar comigo, a brincar com o perigo. Pede, mas amor não consigo. Dizes que me amas, mas amor eu devido. Da maneira que andas, estás a brincar comigo, a brincar com o perigo.
Agora, no Tempo Estado 2, Cultura. Com os cadernos da Julie.
Temos estado 2.1 nos liga, estamos consigo até às 4 e chegou a tempo para os cadernos da Julie. Eu hoje quero apresentar o último livro da coleção Brûle Frontières, da editora Chandaigne Ilia. Alguém aqui já ouviu falar dessa coleção?
Sim, é de Ana Maria Torres e de Milene, não é?
São elas as duas, sim, duas lusodescendentes que estão atrás dessa coleção. Já volto a isso. Liliana, já tinhas ouvido falar?
Eu não, eu admito que nunca tinha ouvido falar dessa coleção.
O que é pena, porque eu acho que tu gostarias imenso dos livros da coleção, se calhar tu também, Diana. Não sei se leis muito.
Não tens tempo. Também não conheço. Não tenho tempo.
Mas esse livro é pequeno, eu já digo tudo. Mas primeiro, pequena apresentação da coleção. Nasceu da vontade de dar espaço a vozes não ouvidas ou que não falam, que não falavam. Vontade de ir além dos limites da literatura para revelar ainda mais a complexidade da dupla cultura, a língua, o social e o cultural. A ideia é pôr em destaque a riqueza das identidades múltiplas e parar com os preconceitos. Atrás dessa coleção, como disse a dois dos outros descendentes que adoro, Ana Maria Torres e Milene Contivar, grandes beijinhos a elas. E o nome Brûle Frontières vem do livro Souvenir d'un futur radieux, de José Vieira, que foi a primeira obra da coleção. A segunda foi Itinéraire du Refus, de Jorge Valadas, eu acho que vocês gostariam também. E finalmente, o último, que foi publicado a 6 de fevereiro, chama-se La classe et la fonction, escrito por Mariana Alves. Alguém já tinha ouvido falar do livro também?
Não.
Não? Ainda bem, estou aqui para isto. Então, quem é Mariana Alves? Na verdade, é uma mulher que podia ser eu, ou tu, ou não sei, a Laura, Diana, cada uma de nós, uma lusodescendente que nasceu nos anos 80 na capital francesa, que cresceu numa teira, une loge de gardienne, em bom francês, do 16º arrondissement de Paris, e agora vive entre Paris e Lisboa. Ela escreveu então La classe et la fonction, que é um livro curto, mas impactante, que foi publicado então na editora Chandaigne Lima. Agora que conhecem a coleção, a autora, o que vous inspira o título do livro? La classe et la fonction. Ok, acho que é okay. Nada.
Para mim,
nada.
Acho que o livro vai falar de pronto, a situação dessa senhora que é porteira. E acho que é autobiográfico.
É.
Ok.
Estás então, mesmo no
já estou a imaginar.
Bom lugar. Estás a imaginar muito bem. La classe et la fonction de Mariana Alves é um livro de introspeção que é o familiar de La Grande Petite. É a personagem principal que é, na verdade, a própria Mariana Alves. Pois a narradora é filha de imigrantes portugueses, cresceu no final dos anos 90 numa portaria de um edifício no rico e luxuoso 16º arrondissement de Paris. A história é intensa, mas com recuo da parte da autora e um pouco de humor. Descreve as condições de vida no micro, mas também as relações de dominação social com os outros, como os chama, les autres. É mesmo o mundo dessa criança visto pela criança. Nós estamos mesmo a ver o olhar dela, o que acho muito lindo, ver o mundo com os olhos de uma criança e, sobretudo, esse mundo que ela não propriamente compreende, já que tem amigos ou camaradas de escolas que vêm do CSM e ela numa casa de porteira, não é?
E como ela vive esse instante presente, não é?
Exato. E também há uma parte muito interessante sobre a ligação com a intimidade, porque numa casa de porteira às vezes é só um quarto, não há intimidade em relação aos pais e à família. É uma obra que me tocou particularmente, porque acho que pode falar a cada um de nós, mesmo se não o vivemos. Eu nunca vivi numa casa de porteira, mas conhecemos alguém que o viveu. Acho que toda a gente temos alguém em mente, um português ou uma portuguesa que cresceu numa casa de porteira. E também sabemos que a condição de porteira em Paris é hoje bem complicada, por isso acho que é importante dar-te conhecer essa história, ler esse livro, que lê-se muito rapidamente, juro, são umas 100 páginas que se lê muito rapidamente, mas se calhar o melhor é deixar a Mariana falar.
La classe et la fonction, c'est une sorte de parcours labyrinthique à l'intérieur d'un immeuble cossu du 16e arrondissement à Paris. Mais ce récit, ça va pas s'intéresser aux beaux tapis et aux grands appartements luxueux. En fait, le véritable sujet, il est juste là, en péri. Il faut regarder un peu plus à gauche. Là, voilà. La loge du gardien. Et votre guide, ce sera un petit personnage timide, mais avec un caractère bien tranquille, qui s'appelle la grande petite. Donc elle vous fera découvrir du 6e étage jusqu'à la cave, en passant par les escaliers de service et derrière le rideau, tout le quotidien d'une famille portugaise qui travaille. Alors de temps en temps, vous serez embêté lors de votre visite par les autres, mais ce sera pas long, juste étouffant. Parce que la grande petite, elle va grandir et sortir d'Inde pour aller chercher le Graal, c'est-à-dire un espace. Et cette recherche, en fait, ça lui fera comprendre des passés sur la violence sourde qui existe dans ce petit espace qu'elle a enfin quitté.
Obrigada, Mariana, e grandes beijinhos também. Para quem ainda está intrigado, convido a ler a entrevista em francês que realizei com a Mariana Alves, que está disponível no site da Cap Magellan. E resumimos então La classe et la fonction, de Mariana Alves, da coleção Brûle Frontières Chandaigne et Lima, disponível em todo lado e recomendo imenso. E fique connosco por daqui a 5 minutos, teremos a entrevista contigo, Diana Duarte, mas por enquanto vamos ouvir o último single de Sefil, A Meio da Noite.
Estou sentado à espera que apareça, em busca da razão para tal saudade. Que por acaso não me des, mas sinto que dançamos por vaidade. Caixão ver a porta e tu quiseste. E não há luz pra ver que vai, se o dia não fala. Foste a meio da noite ou de madrugada. Luz pra ver que eu chegar, se o dia não fala. Mesmo com frio ficas lá embaixo, à espera da hora. Só restam peças que eu não encaixo. E a espera demora. Diz-me o que quiseres, se eu já não ou jamais. Cai a noite e és tu no meu lugar. E a espera demora. Cai chuva na porta e tu quiseste abri-la. Minha resposta. Faz tamanho da noite ou de madrugada. E não há luz para ver-te chegar, se o dia não fala. Faz tamanho da noite ou de madrugada.
Darmstadt de Chponton sur Radio Alpha. Vous arrivez à temps pour l'interview avec Diane Edwart. Tu es coiffeuse indépendante spécialisée dans les balayages et les soins pour femmes. Ton objectif est d'aider les femmes à obtenir la couleur de cheveux parfaite pour se sentir belle et confiante. Tu es aussi cofondatrice de Blondie. Liana et moi avons plein de questions pour toi et on va commencer par une question basique. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans la coiffure rapidement? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coiffeuse?
Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir, petite anecdote, que j'étais pas du tout destinée à la coiffure. Il faut savoir que c'était pas une passion. J'ai jamais coupé les cheveux à mes poupées, je les ai jamais coiffées. Je suis tombée dedans un peu par hasard. En fait, à la base, je voulais être infirmière. Mais suite à un stage et suite à un malaise, voilà, j'ai compris que c'était pas, que j'étais pas faite pour être infirmière. Et du coup, j'étais un peu perdue. Et c'est là où ma mère, elle m'a dit, mais Diana, pourquoi tu fais pas coiffeuse? Moi, je dis, mais coiffeuse, mais pourquoi coiffeuse? Enfin, t'as juste envie que je te coiffe gratuitement, en vrai. Je dis, mais pourquoi?
Et elle a raison.
Elle a raison. Et du coup, en fait, étant donné que j'avais pas de plan B, je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Du coup, j'ai été faire un stage, cette fois-ci en coiffure et puis en hôpital, bah, forcément. Et là, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, pourquoi pas? Allez, bah, je me lance dans la coiffure. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai commencé la coiffure. Au début, j'étais pas du tout dans accès couleur, balayage et tout ça. Parce que, il faut savoir que ça fait, je sais pas si je vais le dire en vrai. Ça fait plus de 15 ans que je fais de la coiffure. Ouais, c'est plus, enfin, ça me rajeunit pas tout ça, mais bon.
Mais si.
Donc, il faut savoir qu'à l'époque, ben, il y avait pas toutes ces tendances, tous ces, voilà, de balayage, de mettre en valeur, la chevelure de la femme et tout ça. C'est vrai que la partie couleur était pas très excitante, on va dire, et du coup j'étais plus axée sur tout ce qui était coupe, chignon et tout ça. C'est bien plus tard que je me suis penchée sur la couleur, avec l'arrivée des nouvelles techniques, de la nouvelle approche, on va dire, bah, sur les femmes, sur le cheveu, sur l'acceptation de soi, où j'ai à me former, à beaucoup me former sur tout ce qui était technique, balayage et tout ça. Et de là, c'est venu une passion. C'est devenu ma signature, en fait. Et j'ai commencé.
Et est-ce que t'as l'impression que ton héritage, du coup, franco-portugais a pu influencer ta vision de la beauté?
Je dirais que oui. Oui, oui, parce que alors, il faut savoir que c'est pas destiné à être coiffeuse. Quand j'accompagnais quand même ma mère chez le coiffeur, c'était forcément des Portugais. Je m'y intéressais quand même et je posais quand même certaines questions. Et il faut savoir aussi que quand j'ai commencé la coiffure, j'étais déjà beaucoup trop âgée pour faire mon CAP, donc forcément j'avais un peu galéré à trouver un patron, et j'ai eu énormément de chance parce qu'en fait il sort une patronne, une portugaise de base, enfin une portugaise que de base ne voulait pas prendre d'apprenti, et étant donné que j'étais portugaise, elle m'a dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire pour toi, il faut s'entraider, je vois que t'as envie mais que tu n'arrives pas, donc moi je vais t'aider. Et en fait oui, ça m'a ouvert des portes, en tout cas.
Et comment tu décrirais ton style ou la signature, ta signature à toi?
Ah là là, ça c'est difficile comme question, hein. J'ai pas préparé tout ça, hein. Non, je rigole. Alors moi, j'aime beaucoup l'élégance, j'aime la classe, j'aime la finesse. Donc voilà, mon style, ça va être plus ça. En fait, mettre en valeur la femme sans dénaturer sa personnalité et tout en gardant cet aspect vraiment classe, élégance. C'est vraiment mon style.
Et comment tu vois l'évolution du métier de coiffeuse aujourd'hui?
Alors, dans la partie technique ou plus en général, enfin.
En général, oui.
En général. Alors, il faut déjà savoir que la coiffure, elle a énormément évolué. Et là, je vais parler plus en tant que, entre guillemets, patronne, entre guillemets, c'est que...
Il faut on peut ça... enlever les guillemets. Hein.
Ouais, on peut enlever les guillemets.
On a le droit d'être chère, d'être patronne aujourd'hui.
Exactement.
Hein.
Alors, la coiffure, elle a évolué parce que, par exemple, à mon époque, on dirait que j'ai...
non, mais tu es jeune.
En fait, la réussite d'un coiffeur, c'était quoi? C'était d'avoir son propre salon, voilà, faire sa petite clientèle. Voilà, c'était la réussite d'un coiffeur. Il faut savoir que moi je l'ai fait, mais pour moi c'était pas du tout une réussite. Il faut savoir qu'avant d'ouvrir Blondie, j'ai déjà eu un premier salon il y a à peu près une dizaine d'années. Et en fait, c'est sur cet aspect-là où j'ai vu que la coiffure, elle a énormément évolué. Comme je disais, je me répète un peu, hein, je suis désolée. Hein. Comme je disais, à l'époque, voilà, la réussite d'un coiffeur, c'était d'avoir son propre salon, faire ses petites clientes et basta. Aujourd'hui, en fait, la réussite d'un coiffeur, ce n'est pas du tout, plus du tout cet aspect-là. C'est plutôt faire briller son aspect artistique. Puis tout à l'heure, on parlait de art, mais la coiffure aussi, c'est une forme d'art. Donc là-dessus, j'aurais pu intervenir, mais c'est vrai. Maintenant, on est plus dans une dynamique à mettre en valeur le savoir-faire, le côté artistique de chaque coiffeur, parce qu'il faut savoir que la coiffure, même si on va tous à la même école, on a tous des univers différents, donc des approches différentes. Et en fait, oui, c'est maintenant, on est plus axé sur ça. Plus on cherche plus à tout prix à ouvrir un salon, à être indépendant, mais on cherche plutôt à faire reconnaître son travail et à faire reconnaître, oui, sa passion. En fait, c'est devenu une passion et pas un travail, un job à plein temps où il faut aller faire ses petits sous. Non, c'est vraiment un métier de passion et c'est devenu, enfin, en tout cas, c'est là où il y a eu le plus de progrès. On fait de la coiffure parce qu'on est passionné et plus parce qu'on a envie, il faut qu'on trouve un travail.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu du concept de Blondie et pourquoi tu l'as créé?
Oui, alors Blondie, je l'ai... c'est la nouvelle forme de coiffure. Il faut savoir que Blondie, ce n'est pas un salon classique. Déjà, c'est un salon privé. Et il est pas, il est accessible à tout le monde, mais c'est vrai qu'il est que sur rendez-vous. Donc, et au-delà de ça, c'est un salon où, en fait, c'est que des indépendants qui travaillent. Dedans, en fait, on est quatre coiffeurs. On travaille tous à notre compte. En fait, c'est comme un espace de coworking, en fait. Avant, ça n'existait pas du tout. Maintenant, c'est très courant, en tout cas à Paris, d'avoir des espaces comme ça. Et en fait, voilà, on est quatre coiffeurs et chacun a sa spécialité, chacun a son univers. Et en fait, c'est que des passionnés en plus. Donc voilà, on partage notre passion. On a notre clientèle et quoi dire de plus? C'est un salon qui me ressemble vraiment. Classe, élégant, minimaliste, tout ce qu'on aime.
Et chacun a sa spécialité, c'est
exactement,
ça?
Exactement, chacun a sa spécialité.
Et comment on peut prendre rendez-vous si on veut venir?
Oui, alors, les rendez-vous, ça se prend directement en ligne. Par exemple, moi, c'est sur Planity et mes trois autres collègues, c'est sur Booksy. En fait, c'est des plateformes de prise de rendez-vous comme Doctolib et tout ça.
Ok. Et du coup, est-ce que les réseaux sociaux, ils ont changé ta relation avec tes clients et quelle place ils occupent dans ton activité?
Les réseaux sociaux, oui, bien sûr, ça a changé énormément et ça a aussi changé carrément. Ça m'a changé moi et ça a changé aussi la relation avec les clients. Il faut savoir que je me suis fait connaître grâce aux réseaux sociaux, donc il faut savoir qu'il n'y a pas que des mauvais côtés dans les réseaux sociaux. En tout cas, pour ma part, ça m'a ouvert énormément de portes. Je me suis fait connaître grâce aux réseaux sociaux. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand la cliente, elle vient me voir, elle connaît déjà mon univers, elle connaît déjà ma personnalité. Et du coup, en fait, j'aborde mon métier avec beaucoup plus de légèreté. C'est-à-dire, quand la cliente, elle vient me voir, elle me dit, je te fais confiance, Diana. Et il n'y a plus cette étape à essayer de rassurer une cliente pendant 20 minutes avant de lui faire sa prestation, qui est tout à fait normal, hein, parce que c'est vrai que quand une cliente ne te connaît pas, c'est quand même ses cheveux, elle n'a pas envie non plus de faire confiance comme ça, aveuglement. Et du coup, les réseaux sociaux, oui, ça a apporté une légèreté dans mon travail vis-à-vis de la cliente, en tout cas.
Mais est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, pour avoir son salon ou autre, il faut être sur les réseaux sociaux?
Alors, il y a plein de gens qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais c'est bien. Oui, honnêtement, aujourd'hui, oui. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas se mentir, la nouvelle génération, elle est très réseaux sociaux. Donc, il faut qu'on évolue avec. On ne peut plus se permettre d'avoir un salon de coiffure et attendre juste le bouche à oreille ou attendre que quelqu'un franchisse la porte. Parce que maintenant, c'est vrai que moi-même, quand je cherche quelque chose, je vais directement sur Insta, je tape ce que je veux chercher, même sur TikTok. Donc, et ça va être l'avenir. Donc, oui, aujourd'hui, si on a envie d'être une coiffeuse, voilà. En fait, si on a envie d'attirer une jeunesse, si on a envie d'attirer, entre guillemets, les gens un peu de tendance, les gens qui s'intéressent à la mode ou des choses comme ça, oui, il faut être sur les réseaux sociaux.
Et quel type de contenu tu conseillerais de faire pour commencer en tant que coiffeur sur les réseaux ?
Le plus authentique possible. En vrai, il faut savoir que la vidéo qui m'a fait percer, c'était trop marrant. Je débutais sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir que ça fait pas très longtemps que je suis sur les réseaux sociaux. À la base, j'étais pas du tout de cette génération-là. Et un jour, je voyais les nouveaux coiffeurs qui arrivaient faire de, je les voyais sur les réseaux et ça m'a donné envie. Et en fait, un jour, j'ai une petite jeune qui vient au salon et en fait, comme ça, sur un coup de tête, je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux te filmer? Elle me dit, mais ouais, carrément, et tout. Elle était trop sympa. Franchement, j'avais un iPhone pourri, hein, on va pas se mentir, j'étais pas du tout équipée pour. J'ai mis le téléphone devant moi, je l'ai calé avec des serviettes, et là, on a papoté, on a fait un diagnostic, vraiment, où j'ai fait mon travail en tant que coiffeuse. Elle m'a posé ses questions en tant que cliente. Vraiment, une vidéo très authentique, et cette vidéo-là, elle m'a juste fait 2 millions de vues. Et c'était une de mes premières vidéos. Et à partir de là, voilà, c'était... Donc voilà, en vrai, ça sert à rien d'essayer de se donner une image, d'effacer... Enfin, c'est le plus authentique possible. C'est ça que les gens aiment.
Vous êtes sur Radio Alpha pour l'émission Themestadt de Sponton. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours en interview avec la coiffeuse et entrepreneuse, je pense qu'on peut le dire, Diane Edwatt. Alors, on va parler un peu plus de ta spécialisation qui est le balayage. Pourquoi avoir choisi cette spécialité du coup ?
Comme je disais tout à l'heure, ça n'a pas vraiment été un... Enfin, je ne peux pas dire que ça n'a pas été un choix. En fait, je suis tombée dedans, un peu comme Mélisse. Du coup, en fait, je me suis découvert une passion pour le balayage. Et du coup, après, j'ai été dans cette direction-là. Je me suis énormément formée.
Ouais,
et
puis, c'était pas prévu, quoi.
C'était pas prévu, mais j'ai aimé. Donc, je me suis dit, c'est trop cool de faire ça. Donc, allons-y. Et puis, je me suis intéressée de plus en plus. Et voilà.
Et qu'est-ce qui, selon toi, fait un balayage vraiment réussi aujourd'hui ?
Un balayage aujourd'hui réussi, c'est de la finesse. C'est vraiment quand on regarde quelqu'un et on se dit « Ah, elle est belle sa couleur », mais qu'on ne se dise pas « Ah, elle a fait un balayage, c'est gros quand même ». Enfin, vraiment,
qu'il n'y avait pas une démarcation.
Exact. En fait, moi, j'appelle ça les passages de piétons ou les trucs comme ça. C'est vraiment...
Les Danettes vanille
oui,
chocolat.
Oui, voilà, c'est ça. Souvent, je dis les balayages des années 2000, quoi. Voilà, ça a été peut-être une des années 2000, mais ce ne l'est plus maintenant. Vraiment, c'est cette finesse, cette délicatesse. Et surtout, un bon balayage, c'est un balayage qui vieillit bien dans le temps. Alors, on va parler un peu plus technique, parce qu'il faut savoir que nos cheveux, ils ne sont pas faits pour être décolorés tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc, un bon balayage, c'est un balayage qui va être fait, on va dire, 2 fois par an, pas plus, et qui vieillit bien, et qu'on ne se dise pas, il faut que tu ailles faire ton balayage.
Mmh. Et quels soins ou routines tu recommandes après un balayage, du coup ?
Alors, après un balayage, je conseille souvent un soin Tokyo. En fait, c'est un soin que le protocole, il se fait en salon, et après, on peut l'entretenir à la maison. Après, je suis très, très, très fan aussi de la gamme Metal Detox de chez L'Oréal Professionnel. Je trouve que ce sont des produits très abordables et qui entretiennent très, très, très bien un balayage. Ce sont les conseils que je donne et beaucoup de soins Tokyo.
Comment tu adaptes tes techniques à chaque type de cheveux ?
En en fait, ça, c'est vraiment de la sensibilité. En fait, il n'y a pas un protocole où on se dit, alors là, c'est un cheveu curly, je vais travailler comme ça. Là, c'est un cheveu lisse, je vais travailler comme ça. C'est beaucoup de sensibilité, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, on est des artistes, il n'y a pas un schéma prédéfini. Donc, une fois qu'on est face à la cliente, on visualise ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut obtenir comme un rendu. Et là, il faut qu'on fasse... En fait, on l'imagine dans notre tête et on sait que pour obtenir ça, il faut faire ça, ça, ça. En fait, c'est pas comme à l'époque, comme il y a quelques années, voilà, tout le monde avait les mêmes mèches, tout le monde, voilà, parce que c'était des techniques, il y avait, on va dire, une seule technique pour tout le monde. Maintenant, c'est pour ça que je mets en avant le côté artistique, parce que c'est vraiment, on regarde la cliente et on se dit, ok, pour obtenir ça, je vais faire ça, ça, ça. Donc, il n'y a pas forcément de technique prédéfinie. C'est de la sensibilité. C'est pour ça que il y a beaucoup, beaucoup de très, très, très bons coiffeurs, mais on donne tous des rendus différents parce qu'on a tous des univers différents.
Et du coup, même comme ça, c'est quoi la demande la plus fréquente de tes clientes ?
Moi, je suis, du coup, forcément, mes clientes, c'est le balayage. Étant donné que je communique beaucoup dessus, il faut savoir que sur les réseaux, on attire ce qu'on poste. Et étant donné que je poste beaucoup de balayage, oui, j'attire beaucoup de balayage. Et il faut savoir, la petite anecdote, c'est qu'à un moment donné, en fait, des vidéos aussi qui cartonnent sur les réseaux, c'est les corrections couleurs. C'est-à-dire, la cliente, elle vient avec une couleur complètement ratée. Et là, on fait un truc, waouh, ça marche énormément. Il faut savoir qu'à mes débuts, je postais beaucoup des vidéos comme ça. Et le problème, c'est que j'avais l'impression d'attirer tous les ratés de Paris. Donc, à un moment donné, c'est pas que je les aime pas, c'est cool, mais je faisais que ça. Donc, du coup, j'ai commencé vraiment à poster plus des beaux balayages, voilà. Et du coup, forcément, c'est ce que je préfère.
Du coup, tu conseilles aussi de vraiment, pour les coiffeurs qui se lancent sur les réseaux, de poster ce qu'ils veulent attirer.
Exactement. En fait, tout n'est pas bon à poster. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on n'aime pas le boulot, mais par exemple, parfois, je fais des coupes courtes, mais c'est vrai que je communique jamais dessus parce que c'est pas ce que je veux attirer. Moi, je veux vraiment communiquer sur le balayage. Donc, même si je suis très, très, très fière de ma coupe, même si j'ai passé un très beau moment avec la cliente et tout, c'est pas forcément ce que je veux attirer. Donc, oui, non, je vais pas le poster, mais voilà. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on poste. C'est pas parce qu'on aime. En fait, il faut réfléchir, c'est quoi l'image que je veux donner, c'est quoi que j'ai envie de faire davantage, et puis il faut poster ça.
Et quelle est l'importance que tu accordes au diagnostic capillaire avant la prestation ?
Mais c'est la base, c'est la base. Il faut savoir que les coiffeurs et les clientes, nous n'avons pas les mêmes mots, on n'a pas la même notion de la couleur, et ça vraiment, on ne peut pas partir sur une couleur, sur un balayage, dans un premier temps, communiquer avec la cliente. Parce que la cliente, elle a pas les mots techniques. Parfois, elle va dire, ça m'est déjà arrivé, la cliente, elle arrive, elle me dit, je veux un balayage cuivré. Alors qu'en creusant un peu, c'était pas du tout du cuivré qu'elle voulait, mais elle voulait juste un balayage un peu effet surfeur, genre un peu doré, un peu. Et donc, imaginez, s'il y aurait pas eu un diagnostic, je leur aurais fait un balayage cuivré, mais ça aurait été la catastrophe. Donc vraiment, le diagnostic, c'est la base de base. On ne prend pas une cliente sans faire un diagnostic.
Et comment est-ce que on fait pour, toi par exemple, ce que tu fais lors de la prestation pour préserver du coup la santé des cheveux lors de l'éclaircissement? On a compris du coup il faut le soin Tokyo après, mais pendant.
Alors on utilise des protecteurs. Il y a des plex qui se met avant l'application de produits. Il y a aussi des soins qui se mettent dans la poudre, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits accessibles pour préserver le cheveu. Après, un conseil que je donne en tant que coiffeuse, il faut pas hésiter à dire non. En fait, pendant longtemps, on nous disait une cliente, c'est une cliente. Elle veut un balayage, on lui fait un balayage. Elle veut ci, elle veut ça. Mais moi, le conseil que je donne en tant que coiffeuse, c'est non. Non, non, il faut pas faire ça. Quand vous voyez que la cliente, elle arrive, que son cheveu, il est déjà extrêmement sensibilisé, ne faites pas un balayage, ne lui décolorez pas les cheveux. Parce que le problème, dans la tête de la cliente, elle va se dire, le coiffeur, lui là, il m'a brûlé les cheveux. Alors, elle va pas se dire, mes cheveux, ils étaient déjà abîmés. Donc, il faut pas se lancer là-dedans. Donc, il faut aussi savoir dire non.
C'est un super bon conseil, merci beaucoup. On va écouter la deuxième musique que tu as choisi, un classique aussi, Ruve Rose, NR de Ruby. Tu as choisi que du portugais. Hein.
Oui, que du portugais, c'est ça, c'est la nostalgie. Voilà, j'avais envie vraiment de me faire kiffer.
Eh ben, allons-y.
Tu eras aquela que eu mais queria. pra me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar pra todo lado e até quem sabe talvez casar. Ai, o que eu passei só amar. A saliva que eu gastei para te mudar. Mas esse teu mundo era mais forte do que eu, e nem com a força da música ele se moveu. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao conselho que havia no Rivoli. E era só a ti que eu amava. Ao meu lado no concerto nesse dia, juntos no escuro de mão dada, ouvi aquela música maluca sempre a subir. Mas tu não ficaste nem meia hora. Não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli.
Ça fait vraiment du bien de l'écouter, hein. Franchement, t'as super bien choisi. Et alors, on retourne sur la coiffure après avoir écouté de la bonne musique. Comment est-ce que tu accompagnes une cliente qui veut un changement mais sans savoir exactement quoi choisir ?
Alors, quand c'est comme ça, il faut savoir. Alors, c'est très carré chez moi. Ça veut dire que mon planning, il est vraiment à la demi-heure près. Donc quand j'ai une cliente qui sait pas trop ce qu'elle veut, quand il y a eu aussi des antécédents, quand il y a eu trop de techniques dessus, en fait je la dirige plutôt dans un premier temps dans un diagnostic. Ça veut dire qu'elle vient que pour le diagnostic, il y aura pas de prestation derrière. On en parle, on discute. S'il faut, je lui fais une mèche test pour voir ce qui est faisable de faire ou pas. Et après, je lui donne un rendez-vous avec la prestation adéquate à sa problématique.
Et est-ce que tu as une transformation capillaire que tu as en tête qui t'a vraiment particulièrement marqué?
Honnêtement, comme je suis passionnée, j'ai besoin à chaque fois, à la fin de chaque prestation, de sentir une fierté dans mon travail. Donc en fait, je donne vraiment le meilleur de moi-même pour chaque client. Donc là, en tête, je peux pas dire waouh, c'est celle-là que je kiffe plus qu'une autre, en fait. Mais par contre, si on revient, si on fait le lien sur les réseaux, par exemple, là, il y a une vidéo qui a cartonné parce que c'était une belle transformation qui a fait 7 millions de vues. Donc là, oui, j'ai vu que cette vidéo-là, elle a beaucoup plus cette transformation-là que par rapport à une autre. Donc c'était une petite brunette où en fait, je lui ai fait un super beau cuivré, hyper lumineux, hyper, voilà. Et du coup, apparemment, les gens, ça leur a plus marqué cette transformation-là qu'une autre.
Trop bien.
Et du coup, tout à l'heure, tu nous as un peu parlé des mauvaises expériences capillaires. Est-ce que t'as déjà eu, comment tu gères en fait les clientes qui ont des mauvaises expériences, qui sont un peu traumatisées par les coiffeurs?
Il y en a.
Ah oui, il y en a. En vrai, j'essaye de les rassurer. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, étant donné qu'elles me connaissent déjà sans me connaître, quand elles viennent, elles ont, en fait, je sens pas cette peur. En fait, elles viennent plus, elles se disent, voilà, c'est catastrophique, s'il te plaît, fais-moi quelque chose, cool, en fait. Je ressens, en fait, j'ai plus cette cliente où elle est catastrophée et je dois la rassurer pendant hyper longtemps.
Et selon toi, quelle est l'erreur la plus fréquente que font les clientes avec leurs cheveux?
Ah, là 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 là. On va dire des décolorations maison. Quand elles se disent, bah, c'est simple ça, bah, allez, je le fais. Et ça, pendant le Covid, ça a été mais catastrophique, le post-Covid, mais ah là 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 là. Les franges, les couleurs, les... rien n'allait. Mais voilà, mais c'est des expériences.
Et comment tu fais pour rattraper ça derrière?
Ben, il y a beaucoup de technicité et parfois c'est même impossible de rattraper d'un coup. Il faut savoir que parfois il faut plusieurs rendez-vous pour réussir à faire quelque chose de vraiment bien. Donc des fois ça peut être vraiment très catastrophique.
Il faut faire comprendre ça à la cliente parce qu'il y en a, elle pense que tu viens chez le coiffeur et t'es transformée direct.
Oui, et il faut savoir qu'on n'est pas non plus des magiciens. Il y a des choses où on peut faire, il y a des choses où on peut pas faire. Donc, et c'est pour ça qu'il faut savoir dire non aussi parfois ou alors expliquer. Cette fois-ci, c'est pas possible. On va commencer déjà par des soins, des choses comme ça, et après on se reverra dans 6 mois. Et là, à ce moment-là, on pourra faire ce que la cliente souhaite.
Et alors, pour les prochaines années, quels sont tes objectifs? Est-ce que tu as des futurs projets dont tu souhaiterais nous parler aujourd'hui?
Ah là là, alors il faut savoir que je suis une éternelle insatisfaite. Déjà, ça veut dire que ma vie, c'est des steps. Une fois que j'ai franchi un step, j'ai toujours une longueur d'avance. Donc en vrai, j'ai énormément de projets. Là, par exemple, j'aimerais beaucoup me développer dans la formation et pourquoi pas dans la formation au Portugal. Vraiment, je l'ai déjà fait une fois et en fait, ça a été vraiment une très belle expérience, vraiment, d'aller former des coiffeurs voilà, à l'étranger, surtout au Portugal, des choses comme ça. Oui, je pense que ça va être la prochaine étape, ça va être plus dans le domaine de la formation.
Mais c'est pas trop difficile d'arriver au Portugal parce que c'est peut-être pas les... Enfin, même si tu parles portugais, c'est pas le même, enfin, le vocabulaire qu'on pratique tous les jours.
Ah oui, je me suis rendu compte que oui, alors, je parle très très bien portugais, mais j'avoue que j'ai jamais... Et je suis née là-bas, je suis arrivée en France à l'âge de 15 ans, donc c'est vrai que je le parle parfaitement, mais j'avoue, le vocabulaire très spécifique, oui. Coiffure, oh là là, mais c'est tellement drôle. En fait, la première formation que j'ai faite au Portugal, mais c'était trop drôle. Je savais pas comment on disait un bac. Et j'étais là, allons-y, on va passer au bac. Et en fait, elle me regardait avec des grands yeux. Et j'ai appris qu'un bac, c'est au marimpa. Voilà. Moi, je l'ai appris. Donc oui, c'est vrai que parfois, les mots très spécifiques, bah, ça change. Mais c'est ça aussi qui rend le côté un peu sympa, un peu drôle de la chose. Donc non, moi, ça me fait pas peur, par contre.
Au moins, t'apprends beaucoup de choses.
Exactement, exactement.
Pour finir, est-ce qu'on rappelle tes réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Comment ça se passe?
Oui, bien sûr. Alors, rendez-vous, ça se prend directement sur Planity. En fait, on tape tout simplement Diana Duarte et du coup, ça apparaît directement. Et mes réseaux sociaux, je suis beaucoup plus sur Instagram, dianaduarte.paris. Et j'ai aussi un TikTok que je l'alimente un peu moins, mais voilà, c'est essentiellement Instagram.
De toute façon, on tape Diana Duarte, on va
et ça apparaît directement.
Sur notre compte Instagram aussi, tu y es, en collaboration sur le post. Donc, n'hésitez pas à aller la chercher, à prendre rendez-vous, surtout si vous voulez un balayage réussi.
Merci.
En tout cas, tu restes avec nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous aussi, nous sommes en direct jusqu'à 16h. Et d'ici 5 minutes, ce sera le moment de l'actu sport avec Clarisse. Et oui, elle n'est pas là, mais elle vous tient quand même au courant. Et en attendant, nous allons écouter la dernière musique que tu as choisie. C'est un classique, Diana. Sonius de Mnin, de notre grand Tony Carrera. Ouais,
faire un petit coucou à ma maman.
Perdida na beira, a terra que me viu nascer. Lembro-me de um menino que andava sozinho, sonhava vir um dia ser. Sonhava ser cantor de cantigas de amor, com a força de Deus venceu. Nessa pequena aldeia, o menino era eu. E hoje a cantar em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e o sol. sonhos de menino. Tenho a vida que eu quis, nem sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi. Infeliz no amor, mas no fundo cantor, a vida deu-me o que eu pedi. Se eu pudesse voltar, de novo sonhar, faria o mesmo, podem crer. E aquele menino eu voltaria a ser, e hoje a cantar em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar o cantinho e os sonhos do meu ninho. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos do menino. E hoje a cantar em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos do menino.
Tempestade 2.1 sur Radio Alpha. Alors, c'est le moment de l'actu sport. Clarisse, mais avant, j'avais quelques questions. Est-ce que tu suis un peu le sport?
Un peu.
Le sport portugais?
Oui, un peu.
Le foot, quoi?
Bah, je le suis parce que mon chéri, il est à fond.
Et alors, c'est quoi vos clubs?
Ah là là, là, par contre, je vais déclarer une guerre à la maison parce que je vais dire publiquement que je ne suis pas du même club que mon mari. Ah. Ça va être la guerre ce soir. Non, mais moi, je suis pour Benfica.
Très bon choix.
On est d'accord.
Oui. Là, je crois qu'on n'est que des benfiquistes, là.
Et ben voilà, je suis à la bonne place.
Et donc, lui, il n'est pas benfiquiste.
Non, il est Porto.
Oh là là.
Oh là, là, on est d'accord.
C'est terrible.
On est d'accord.
On va écouter Clarisse. Clarisse, elle est pour Sporting. Donc, mauvais choix aussi, mais peut-être moins pire que Porto.
Quelle semaine incroyable pour le sport portugais. Des pistes d'athlétisme au bassin de natation, nos athlètes ont collectionné l'or cette semaine. On commence tout de suite avec l'athlétisme, une pluie de médailles d'or. C'est une véritable razzia. Le saut en longueur portugais est au sommet mondial avec les titres d'Agathe de Sousa et de Gelson Baldé, tous deux médaillés d'or. Mais la fête ne s'arrête pas là. Augusto Cavaleiro s'impose au lancer du marteau. Amaro Teixeira domine le 3000 mètres. Et en cross-country, c'est Andreia Sanch qui monte sur la plus haute marche du podium. En Formule 1, le drapeau à damier a souri à António Félix da Costa. Le célèbre pilote portugais remporte une victoire magistrale à Madrid, confirmant qu'il fait toujours partie de l'élite mondiale du circuit électrique. Grosse performance en tennis et paddle cette semaine. Thiago Pereira s'offre le titre prestigieux de l'ATP Challenger 100 d'Alicante en Espagne. Chez les juniors, Mafalda Matij est sacrée championne en simple à Rhodes en Grèce. En tennis de plage, Martin Sousa l'emporte Nusa Sochi lors de la compétition ANC Resort Calore 2. Enfin, en paddle, le duo Alexandre Silva et Mafalda Fernandes ramène le trophée du FIP bronze de Nairobi au Kenya. Côté cyclisme, BTT et triathlon, on a du haut niveau qui continue de briller avec Yuri Leitão qui s'impose sur l'épreuve de route en cyclisme. le jeune Rafael Inácio qui prend la première place en BTT et enfin Vilas qui décroche l'or lors d'une compétition internationale de triathlon. Pour ce qui est des autres disciplines, natation, ski et équitation, dans les bassins, Philippe Abreu-Spirch termine première d'une compétition internationale de natation artistique. Sur les pistes enneigées de France, cette fois-ci, Aymeric Guillereau signe un doublé historique avec 2 victoires en slalom. Enfin, en équitation, Rodrigue Gesteira Almeida s'impose sur les sauts d'obstacles. On continue avec le para-badminton. Il faut noter que Beatriz Monteiro prend la tête du classement européen en para-badminton, donc c'est une vraie réussite. Et côté foot, cette fois-ci, la FIFA a dévoilé ce mercredi la dernière mise à jour de son classement des sélections avec comme fait marquant la montée du Portugal à la 5e place du tableau, un rang auparavant occupé par le Brésil. La sélection portugaise a enregistré un match nul face au Mexique, puis une victoire contre Nice lors de la trêve internationale de mars. Ce qui a permis au Portugal d'atteindre 1763,83 points. Ces résultats ont suffi à réguler la sélection brésilienne à 1761,16 points derrière elle. La semaine a également été marquée par des résultats cruciaux. Le choc du week-end, le Porto a réalisé la grande opération en s'imposant 2-1 sur la pelouse de Braga. Benfica reste solide cette semaine, les Aigles n'ont laissé aucune chance à Guimarães avec une victoire nette, 3-0 no Estádio da Luz. Le Sporting a également brillé à l'extérieur en écrasant Alverca 4-1 et à l'international, on retiendra également la victoire des U16 féminines du Portugal qui ont battu la France 2-0 lors du prestigieux tournoi de Montaigu en début de semaine. On peut dire que c'était une semaine historique qui prouve encore une fois que le Portugal brille partout.
Merci beaucoup Clarisse, décidément toutes les semaines il y a des bonnes nouvelles avec toi, donc c'est super, nos athlètes portugais, on en est FCR comme d'habitude. En tout cas, juste après on retourne dans le monde de l'art, décidément c'est le thème de ce sera Arteyondas avec Laura, et tout de suite on s'écoute à un featuring francophone que je n'attendais pas, je vais pas vous mentir, on retourne quelques années en arrière, c'est Zao qui a fait un feat avec La Fouine, et tout de suite c'est Problème sur Radio Alpha.
Je le regarde dans le vide. Savent pas comme j'ai mal au bide. Ni comment t'as chuté dans le mille. J'pensais vraiment que ça pouvait chemin, j'suis trop nia. Tous les regards, les trucs qu'on s'est promis. Avant de se laisser solo avec des problèmes dans la tête. Pour moi, l'amour c'est que dans les livres. C'est dans les films pétés à la télé. Je me souviens des petits détails comme la première fois qu'on a fini sur ODD. À notre trajet à deux vents dans le bolide, on pensait que notre couple était solide. J'vois pas pu faire d'autre. À cause de Baba j'ai pas demandé. Donc si y'a un problème, et si c'est pas moi c'est toi le problème. Et si c'est pas moi c'est quoi le problème. À cause de Baba j'ai pas demandé. Donc si c'est pas toi c'est moi le problème. Et si c'est pas moi c'est toi. Et si c'est pas nous, c'est quoi le problème?
Les gens me consolent mais je me méfie d'eux. De mes larmes je me vide pour arroser ton cœur aride. Et j'ai vu passer notre amour dans un corps. J'ai pas cru en sa mort comme Cotillard. Des milliers de regrets et de je t'aime dans la tête. Si dans mon cœur je n'entends plus chanter les cigales, c'est que je me suis brûlé les ailes comme Icare. Et j'ai plus le cœur à faire la fête. Alors je ferai sans toi. Et si t'es heureuse à Dieu, si tu bois ma santé, pourquoi c'est moi qui sens tout?
À cause de Baba j'ai pas demandé. Donc si c'est pour toi c'est moi le problème. Et si c'est pour moi c'est toi le problème. Et si c'est pour moi c'est quoi le problème. À cause de Baba j'ai pas demandé. Donc si c'est pour toi c'est moi le problème. Et si c'est pour moi c'est toi le problème. Et si c'est pour moi c'est quoi le problème.
Thank you.
ouvir o Tempestade 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou a tempo para Arte e Ondas. Então, Laura, o que apresentas ou quem apresentas hoje?
Hoje mergulhamos no universo do artista português Caver, uma figura incontornável da arte urbana contemporânea que conseguiu transformar o grafite numa linguagem visual profundamente pessoal e reconhecível. Nascido em Lisboa em 1983, The Caver iniciou o seu percurso ainda muito jovem, por volta dos 15 anos, quando começou a pintar nas ruas. Como muitos artistas da sua geração, encontrou no grafite uma forma de expressão livre, direta e acessível e rapidamente começou a desenvolver uma identidade própria que ultrapassa os códigos tradicionais do movimento. Ao longo dos anos, o seu trabalho evoluiu de uma prática mais ligada à escrita e ao estilo clássico do grafite para uma abordagem mais ilustrativa e conceptual. Hoje, as suas obras representam personagens estilizadas, formas simplificadas e composições que parecem ao mesmo tempo lúdicas e introspectivas. Existe uma aparente leveza no seu traço, mas essa simplicidade esconde frequentemente uma reflexão mais profunda sobre o cotidiano, as emoções e a condição humana. Viver entre Lisboa e Porto permitiu-lhe absorver várias influências e consolidar uma presença forte no panorama artístico português nacional. No entanto, o seu trabalho não se limita a Portugal. The Caver tem participado em diversos projetos internacionais, levando os seus murais a outras cidades e públicos e como um artista com uma linguagem universal. Já ouviram falar dele?
Não, nem não. Por isso.
Não, Liliana? Também não?
Eu também não.
Bom, então agora já vão poder
agora já,
descobrir.
Sim.
E uma das características mais marcantes do seu trabalho é a capacidade de criar narrativas visuais abertas. As suas figuras não contam histórias lineares, pelo contrário, sugerem fragmentos, situações ambíguas e momentos suspensos que convidam o espectador a completar o sentido. Muitas vezes encontramos personagens solitárias, animais ou cenas que parecem retiradas de um sonho. Há uma certa melancolia, mas também humor e ironia. Esse equilíbrio cria uma relação muito particular com quem observa, porque cada pessoa pode projetar a sua própria experiência na imagem. Para The Caver, a rua continua a ser um espaço fundamental. E é ali que a sua arte ganha escala e se confronta com o ritmo da cidade. Os seus murais não são apenas intervenções estéticas, funcionam como pausas visuais no meio do caos urbano, momentos de contemplação inesperados. Ao mesmo tempo, essa presença no espaço público reforça a ideia de acessibilidade. A sua obra não está confinada a galerias ou museus, está disponível para todos, integrada no dia-a-dia das pessoas. Ainda assim, The Caver também desenvolveu um percurso sólido no circuito artístico mais institucional, expõe em galerias, participa em exposições e colabora com diferentes projetos criativos. Essa dualidade entre a rua e o espaço expositivo é um dos aspectos mais interessantes do seu percurso. Mostra como a arte urbana pode dialogar com outros contextos sem perder a sua essência. E para além dos murais, o artista trabalha também em ilustração, design e tatuagem. Essa diversidade de meios permite-lhe explorar o seu universo visual de formas diferentes, mantendo sempre uma coerência estética muito forte. As suas composições, independentemente do suporte, são facilmente identificáveis e existe uma linguagem comum que atravessa todo o seu trabalho, construída ao longo dos anos, de experimentação e prática contínua. Outro elemento importante na sua obra é a relação com o cotidiano. Muitos dos seus trabalhos parecem inspirados em situações simples, gestos banais ou estados emocionais comuns. No entanto, ao serem transformados em imagens, esses elementos ganham uma dimensão quase poética. The Caver tem a capacidade de revelar o extraordinário no banal, de dar visibilidade ao que normalmente passa despercebido. E essa abordagem cria uma ligação emocional forte com o público porque nasce de experiências partilhadas. Ao longo do tempo, o seu estilo tornou-se mais depurado, as formas são mais limpas, as cores mais equilibradas e as composições mais diretas. Mas essa simplificação não significa uma perda de complexidade. Pelo contrário, permite uma maior abertura à interpretação. O espectador não é guiado de forma rígida. É convidado a entrar na imagem e a construir o seu próprio significado. Essa liberdade é uma das grandes forças na sua obra. Num contexto em que a arte urbana muitas vezes privilegia o impacto imediato, The Caver propõe um tempo mais lento. As suas imagens pedem observação, reflexão e envolvimento. São obras que permanecem na memória precisamente porque não se esgotam numa leitura rápida. O seu percurso demonstra também uma grande consistência. Apesar de mudanças e evoluções, existe uma linha clara que liga os seus trabalhos a obras mais recentes. Essa coerência é fundamental para a construção de uma identidade artística sólida e, ao mesmo tempo, revela uma capacidade de adaptação e crescimento que mantém o seu trabalho relevante. The Caver continua a explorar novas possibilidades, novos formatos e novos contextos, sem perder a ligação às suas origens do graffiti. Essa fidelidade às raízes, combinada com uma abertura à experimentação, é o que define a sua obra. No fundo, o seu trabalho mostra como a arte urbana pode ser ao mesmo tempo acessível e profunda, simples e complexa, imediata e duradoura. E assim terminamos mais uma rúbrica dedicada a um artista que transforma as paredes das cidades em espaços de imaginação, reflexão e poesia visual, lembrando-nos que a arte pode surgir nos lugares mais inesperados e que, mesmo no meio da rotina, há sempre espaço para olhar, sentir e interpretar o mundo de forma diferente.
Obrigada, Laura. Eu tinha uma pergunta para ti, já que estudaste isto.
Sim.
Eu reparei nas tuas rubricas que há muitos artistas, street artists, que também fazem tatuagem.
Sim, é verdade.
Como é que explicas?
Eu acho que é porque é uma cultura underground, sabes? É uma cultura de rua, um pouco marginal, e essas culturas costumam ser ligadas, por exemplo, à arte urbana, graffiti, o rap também, a cultura hip-hop. Acho que seria a explicação mais simples.
E achas que a tatuagem, a arte da tatuagem, porque também é preciso fazer um modelo antes de fazer na pele, e o grafite e a arte urbana, achas que, não sei, podem dar-se um ao outro?
Sim, também acho que
alimentam-se, pronto.
Claro, porque são formas diferentes de produzir arte, mas também são duas maneiras de marcar uma identidade. Podes marcar uma parede, mas também marcas uma pele. São maneiras de, tipo, de estabelecer o teu nome e a tua identidade, e acho que é por isso que são assim muito ligadas.
Muito interessante. Diana, conhece um pouco a arte urbana ou nem por isso?
Não, nem por isso.
Tens que ir até Lisboa há muito, não é?
Exatamente.
Na Covilhã também, para quem conhece e é de lá. Muito obrigada, Laura, e não se esqueça de ir ver nas nossas redes sociais para ver um pouco o trabalho de The Caver. E voltamos daqui a 5 minutos para os Bumplom, mas primeiro vamos ouvir O Juízo Final, uma colaboração de Prodígio e T-Rex.
Saudade, teu abraço. Eu pedi pra não te resguardar a tua vibe. Eu tô, vou me encher outro dia. Ou disse, no meio do brilho, no meio do que fica. No peito, tipo domínio, tal bala em cima. Porque amor é tudo. Sim. Amor é tudo. Tem, oh, oh, amor é tudo. Tem,
ei,
amor é tudo. Tem, oh, oh, oh.
meu patrimônio no teu paraíso fiscal. Porque tá contigo é o paraíso, afinal. Metade dessa chita eu não preciso, afinal. Porque não se leva nada para o juízo final. Meu patrimônio no teu paraíso fiscal. Porque tá contigo é o paraíso, afinal. Metade dessa chita eu não preciso, afinal. Porque não se leva nada para o juízo final. Então, tiro a casa, tiro o carro, que eu me mantenho. Tiro o suor, tiro o esforço, tiro o empenho. Levo o money desse people que eu entretenho. Se tu tiraste tudo, amor, é tudo que eu tenho. Se tu me deixasses hoje, eu só ia pedir que tu ficasses longe. Vai, com a certeza que não voltas eu domingo. Para de ir à casa da minha cota. Tô numa mansão tipo Airbnb. Tô com três modelos tipo as TLC. Eu filmo a sex tape no meu GLC. Amanhã somos notícia na TMC. Mas tu não foste, tu ficaste. Eu disse que ia ser minha para sempre. Duvidaste, no stress, more sex. She's the best, hey, you're right.
Amor é tudo. Amor é tudo. Amor é tudo. Amor é tudo.
Yeah. Hoje só tenho amor, esqueço o ódio foi trazido pelo pódio. O pódio mudou amigos pelo óbvio. Mas nada disso conta no último episódio. Então tira a maquiagem dessa tua cara linda. Tu vais deixar toda essa roupa cara negra. Tu vais deixar todo esse tempo para trás. No julgamento final não vais levar a Lara niggas. Porque no final do dia a gente só leva lembranças daqui. Quem é que gasta a tua poupança no fim? Quem é que fica com herança no fim? Saber que só leva amor e a esperança.
Amor
pra
é
mim
tudo. Será?
Amor é tudo. Amor é tudo. Amor é tudo.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission Thémstadt de Sponton touche à sa fin. Avant de vous laisser, j'ai quelques accompagner votre semaine. Alors tout d'abord, on a toujours la cagnotte en ligne de l'initiative Petit Geste Grand Sourire pour donner des jouets aux enfants de l'hôpital de Necker qui est ouverte jusqu'au 3 mai. Je vous rappelle aussi qu'on est en plein week-end de Pâques, que là on a la campagne Sécure Pâques de Cap Magellan qui est en cours. Donc faites attention si vous êtes sur la route. On s'arrête 20 minutes toutes les 2 heures, s'il vous plaît, c'est important. Pour les événements à venir, Lionel Cecilio se représente toujours à Paris pour sa pièce La Fleur au Fusil, mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Vous pouvez le voir les lundis 21h, mardi 19h et samedi 15h au théâtre Comédie Bastille jusqu'au 29 juin. La semaine prochaine a lieu le week-end de Art Shopping, donc c'est du 10 au 12 avril au Carrousel du Louvre. Il y aura plusieurs artistes lusophones, dont notre chère Nathalie Afonso, une artiste qu'on aime beaucoup sur Thémstadt de Chponton. Vous pouvez soit aller passer leur faire un petit coucou ou alors aller collectionner des œuvres si c'est votre cas. On en parlait avec Liliana, donc je pense que ça sera un peu plus cher que l'exposition de Victoria, mais
aucune idée.
Mais on peut faire un tour en tout cas. Voilà. Et puis sinon, juste regarder et aller faire coucou à notre chère Nathalie. En tout cas, toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Thémstadt de Chponton et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Et vous le savez peut-être, mais le 24 avril prochain, l'émission Thémstadt de Chponton fêtera ses 5 ans. Et oui, déjà 5 ans à vos côtés chaque samedi. Et pour l'occasion, nous ferons une émission spéciale anniversaire le 25 avril avec plein de surprises. Mais ce n'est pas tout. Rendez-vous sur notre story Instagram puisque nous allons vous partager un lien pour venir faire la fête avec nous le 25 avril au soir en plein cœur de Paris. Vous avez jusqu'au 18 avril pour vous inscrire. Attention par contre, cette soirée s'inscrit dans un cadre associatif, donc les consommations sont à la charge de chacun. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Diana.
Merci, merci beaucoup de m'avoir invitée.
J'espère que ça t'a plu. Nous, on a passé un très bon moment avec toi.
Pareil, j'ai passé un très très bon moment.
Donc j'invite tout le monde à aller te suivre sur Instagram. Tu veux rappeler tes réseaux sociaux ?
Bien sûr, dianaduarte.paris.
Et sur TikTok, et partout, et sur TikTok, prendre rendez-vous avec toi.
Sur Planity.
Exactement. Et est-ce que tu veux faire des bisous aux gens qui nous écoutent? Je crois que ta famille t'écoute.
Oui, alors je vais faire un bisou à mon mari qui me soutient énormément dans mes projets. Je voulais aussi faire un bisou à ma petite fille qui a aujourd'hui 15 mois. Oh, c'est mon bébé.
Félicitations.
Merci. Je voulais aussi faire un petit coucou à ma maman qui est trop fière que je sois là. Elle a envoyé le lien à toute la famille. Et voilà, je voulais faire un bisou à toute ma famille, tout mon entourage, à tous les gens qui me soutiennent dans mes projets et à toutes mes clientes qui me font confiance tous les jours et qui sont toujours aussi nombreuses à être là présentes pour moi.
Et un gros bisou à Julia qui est avec nous et qui filme tout depuis tout à l'heure.
Et un gros bisou à Julia qui n'a pas tout compris parce qu'on a pas mal parlé en portugais, mais qui est là
qui avec nous. Qui te soutient vraiment. C'est vraiment bien d'avoir des amis comme ça. Il y a d'être là. et bien nous, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. Je vous laisse avec le dernier single de Veronica Fusaro. C'est une artiste que j'ai découverte et je pense que vous allez adorer. Ça s'appelle Alice et je vous souhaite bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Alice, your pretty green eyes are magic. My precious prize, I've studied your ways. The way you behave, can I spill my secrets to you? Alice, let me inside, I promise I'll be polite. No, I won't make a mess while you're looking so stressed. Just let me talk to you. I've been watching you. Be scared, be honest. I live in your head. Oh, I'm lonely too. This world's been so cruel. Yeah, I've been here waiting for you, Alice. Ooh, stop knocking on the door. Don't panic. Lay low on the floor. You're safe in my arms. No, I've never harmed. Leave me alone.